Jean-Laurent Gébillon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 6 mars 2024. En Centrafrique, libération provisoire de l'opposant chrétien Bolingouba en attendant son procès. Au Sénégal, un vote sur un projet d'amnistie censé faire baisser les tensions est attendu aujourd'hui. Les pourparlers sur une trêve à Gaza piétinent, le Hamas exigeant un cessez-le-feu définitif. Ici aux États-Unis, Nikki Haley se retire des primaires républicaines pour la présidentielle.
Il y a à peu près 30% des républicains qui ont voté pour Nikki Haley. Trump doit regagner leur soutien.
Calvin Dark, analyste politique, va tirer les leçons de ces différents scrutins dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République centrafricaine, le tribunal de grande instance de Bangui a ordonné la remise en liberté provisoire de Crépin Bolingouba. Le procès de l'opposant pour diffamation et outrage à magistrat a été renvoyé au 13 mars. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Après la demande de renvoi de ses avocats, le prévenu est remis en liberté provisoire avec interdiction de sortie de Bangui, a énoncé le juge Mathieu Nana Bibi. Après 3 jours de garde à vue, Maître Bolingouba, coordinateur de la principale plateforme de l'opposition centrafricaine, a comparu devant le tribunal de grande instance de Bangui. Je me suis mentalement préparé à subir tout ce qui suivra dans ce procès en dénonçant le dysfonctionnement de la justice centrafricaine, avait lancé à l'audience Maître Bolingouba. Président du Parti africain pour une transformation radicale et l'intégration des États et coordinateur du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, il avait été arrêté à l'aéroport de Bangui dimanche à bord d'un avion qui s'apprêtait à décoller pour le Cameroun. Le parquet a annoncé lundi qu'il est poursuivi pour des propos tenus le 20 février, susceptibles d'être qualifiés de diffamation et outrage à magistrat. Ce jour-là, il avait accusé certains magistrats de complaisance à l'égard d'accusés, voire d'être corrompu.
En RDC, la cité de Niazalé, une importante base de forces gouvernementales dans l'est de la République démocratique du Congo, a été prise ce mercredi par les rebelles du M23 après de violents combats qui ont entraîné une fuite massive de population. Lors d'une conférence de presse ce matin à Goma, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini, a jugé la situation dans la région extrêmement préoccupante. Niazalé est une ville du nord Kivu d'environ 80 000 habitants, située à quelques 70 km au nord de Goma. Et toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 11 civils ont été tués en début de semaine lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Selon des sources, l'incursion des assaillants a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Vemba Kinyamuse, dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, alors que les villageois dormaient. Les députés sénégalais débattent aujourd'hui d'une amnistie des actes liés aux violences politiques des dernières années. Le texte est censé dissiper les tensions en pleine crise autour du report de la présidentielle. Le point avec Rosine Monizero.
L'amnistie des faits liés aux troubles politiques des 3 dernières années est un des éléments de réponse du président Macky Sall à la crise provoquée par l'ajournement de la présidentielle. Le camp présidentiel s'efforce de rassurer sur le fait que l'amnistie préserverait les droits des victimes à un dédommagement. Justice pour les assassinés et les torturés, s'est exclamé le député Guy Marius Sagna. L'approbation préliminaire du texte mardi par une commission d'environ 25 députés a donné un aperçu des calculs auxquels pourrait donner lieu le vote. PASTEF, le parti dissous d'Ousmane Sonko, s'est abstenu hier en commission. Le vote est attendu dans la journée en séance plénière. Le report du scrutin a déclenché des manifestations meurtrières dans ce pays qui attend toujours une nouvelle date pour les élections. Pour ajouter à l'incertitude, on ne sait toujours pas ce qui va se passer si les élections n'ont pas lieu avant la fin du mandat de Macky Sall, le 2 avril.
Lutte contre la corruption au Libéria, le président Joseph Boakai a publié aujourd'hui un décret pour identifier et récupérer les biens volés de l'État et poursuivre les fonctionnaires actuels et anciens complices dans le cadre de la répression de la corruption lancée depuis son investiture en janvier. Le décret établira un groupe de travail qui aura le mandat légal et le financement de l'État pour enquêter et récupérer les biens gouvernementaux acquis de manière illicite et demander l'extradition des suspects impliqués, a déclaré la présidence libérienne dans un communiqué. La Cour de cassation de Tunisie a annulé ce mercredi la condamnation du journaliste Khalifa Ghesmi à 5 ans de prison, ouvrant la voie à sa remise en liberté dans l'attente d'un nouveau procès. Khalifa Ghesmi de Mosaïque FM a été condamné en novembre 2023 à 1 an de prison, peine alourdie, à 5 ans en appel pour avoir divulgué des informations sur les services de sécurité. La Cour de cassation a invalidé le jugement de 5 ans et ordonné de le revoir en appel, a indiqué son avocat. Le Fonds monétaire international a octroyé aujourd'hui 5 milliards de dollars de prêts supplémentaires à l'Égypte, prise à la gorge par la crise économique, après un premier accord pour 3 milliards fin 2022, à l'issue d'une journée qui a vu la monnaie locale plonger de près de 40%. Le Caire, fortement endetté, a déjà procédé à une dévaluation de sa monnaie de 50% ces derniers mois, alors que le FMI fait du flottement de la livre une condition à son aide.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les discussions continuent ce mercredi au Caire entre les médiateurs internationaux et le Hamas sur une trêve à Gaza. Les médiateurs espèrent négocier un accord avant le Ramadan. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
L'Égypte, les États-Unis et le Qatar tentent d'arracher un compromis afin d'obtenir un accord sur une trêve de 6 semaines associée à la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël, ainsi que l'entrée d'une quantité accrue d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Des discussions difficiles ont commencé dimanche entre des représentants des 3 pays médiateurs et du Hamas, mais sans représentants israéliens. La délicate question des otages est au centre des négociations, mais le Hamas réclame avant tout accord un cessez-le-feu définitif, un retrait des troupes israéliennes, la reconstruction du territoire et le retour dans leur foyer des centaines de milliers de civils déplacés par la guerre. Israël rejette ces conditions et assure que l'offensive se poursuivra jusqu'à l'élimination du Hamas. Pour sa part, Israël demande au Hamas de lui fournir une liste précise des otages. Les bombardements israéliens se poursuivent sans répit à Gaza et ont fait 86 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas.
La républicaine Nikki Haley a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa campagne pour l'investiture républicaine. Son rival Donald Trump et l'actuel président Joe Biden ont tous les deux appelé les électeurs de Nikki Haley à les rejoindre. Le point avec Eric Manirakiza.
Ancienne représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley a été largement battue mardi durant les primaires du Super Tuesday. L'ex-président Donald Trump a remporté 14 des 15 États en jeu chez les Républicains. Madame Haley a assuré que Donald Trump, désormais seul en lice pour le parti de droite, devrait mériter les voix des électeurs qui n'ont pas voté pour lui. L'ancien président, qui devrait être désigné comme le candidat républicain lors de la convention du parti cet été, a invité les soutiens de Nikki Haley à rallier, selon lui, le plus grand mouvement de l'histoire des États-Unis. Le démocrate Joe Biden, lui aussi quasiment assuré d'être au rendez-vous de la présidentielle de novembre pour son parti, a salué le courage de la candidate républicaine et a affirmé qu'il y avait une place pour ses électeurs dans son camp.
Merci Eric. Le gouverneur de New York, Cathy Hochul, a annoncé ce mercredi qu'elle allait déployer les troupes de la garde nationale et la police de l'État dans le métro de New York. Le gouverneur déploie 1000 membres du personnel de l'État pour aider la police new-yorkaise. Ces dernières semaines, plusieurs fusillades mortelles ont eu lieu, ainsi que des incidents impliquant des couteaux et des passagers poussés sur les voies. Les crimes majeurs ont augmenté de près de 50% dans le métro de New York en janvier par rapport à la même période en 2023. La situation en Haïti est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien, a dénoncé aujourd'hui le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, précisant que 1193 personnes ont été tuées depuis le début 2024 à cause de la violence des gangs. Volker Turk a appelé au déploiement urgent d'une mission de soutien à la police nationale débordée, soulignant que la réalité est telle que, dans le contexte actuel, il n'y a pas d'alternative pour protéger la vie des gens. La Russie a placé l'opposant en exil et ancien champion d'échecs Garry Kasparov sur sa liste des personnes déclarées terroristes et extrémistes, selon une notice du service russe des renseignements financiers. En 2013, craignant des poursuites judiciaires, Garry Kasparov, aujourd'hui âgé de 61 ans, a quitté la Russie et vit désormais ici aux États-Unis, d'où il continue à dénoncer le pouvoir russe et sa campagne militaire en Ukraine. La plupart des opposants d'envergure restés en Russie sont emprisonnés. Certains comme Boris Nemtsov et Alexei Navalny sont morts, les autres ont fini par s'exiler. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Bage.
Le conseil d'administration de la Banque Ouest-Africaine de Développement a approuvé 10 nouvelles opérations pour plus de 238 milliards de francs CFA. Parmi ces programmes, le financement de la campagne cotonnière au Burkina Faso, de systèmes d'irrigation au Mali, de routes en Côte d'Ivoire et d'un parc des technologies numériques à Diamnadio au Sénégal. Au Togo, selon l'Agence nationale d'appui au développement à la base, plus de 218 000 élèves du primaire ont bénéficié du programme d'alimentation scolaire pour l'année 2022-2023. Le nombre de bénéficiaires a progressé de 65% et plus de 20 millions de repas ont été servis au cours de l'année scolaire passée, selon le rapport de l'ANADEB. Le programme de cantine scolaire appuyé par la Banque mondiale cible 300 000 élèves d'ici à 2025. Dans une campagne sur les réseaux sociaux, l'Office du tourisme du Kenya met en valeur l'héritage Maasai, notamment à travers le village traditionnel Majimoto, qui offre une expérience immersive de cette culture, soulignant l'importance de préserver les traditions. L'initiative offre des récompenses aux nationaux qui visitent différents sites et partagent leur expérience.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Kaba Diawara poursuit son aventure à la tête du Sili National.
Oui, le sélectionneur de la Guinée a été reconduit dans ses fonctions par la Fédération guinéenne de football, logé lors de la dernière CAN en 2023 dans une poule difficile avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. Le technicien de 48 ans et son staff ont réussi à qualifier leur pays pour le tour suivant, une première pour le Sili National en élimination directe depuis plus de 20 ans. Kaba Diawara avait été nommé sélectionneur intérimaire de la Guinée en novembre 2021, avant d'être confirmé pour une durée de 3 mois avant la CAN 2021.
Suite des matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Les cas, c'est un rendez-vous que Manchester City de Pep Guardiola n'a plus raté depuis 2017. Les champions d'Europe en titre sont en pleine forme à l'image de Phil Foden, auteur d'un doublé dans le derby contre Manchester United, remporté 3-1 dimanche. Ce soir, les Sky Blues n'ont plus qu'à confirmer leur supériorité sur Copenhague, battu 3-1 à l'aller. De son côté, le Real Madrid, qui n'a plus raté les quarts de finale depuis 2020, une élimination contre City justement, voudront confirmer leur victoire 1-0 à l'aller face au RB Leipzig.
La première promesse de contrat de Messi sur une serviette en papier, bientôt aux enchères.
Cette première promesse de contrat pour engager au FC Barcelone un certain Lionel Messi, 13 ans, fut signée sur une serviette en papier en 2000. Elle est exposée à New York avant sa prochaine mise aux enchères entre environ 380 000 et 635 000 dollars. Né en 1987 à Rosario en Argentine, Messi a 13 ans quand il est repéré par le Barça, mais tout le monde n'est pas convaincu au club Blaugrana et l'affaire traîne en longueur jusqu'à ce rendez-vous le 14 décembre 2000 dans un tennis club de Barcelone entre le directeur sportif du club et les agents Joseph Minguella et Horacio Gaggioli. Pour confirmer l'intérêt du club, Carles Rexach va alors écrire le contrat sur une simple serviette. L'agent argentin Gaggioli a gardé il y a près de 25 ans cette preuve initiale de l'accord qu'il a décidé de vendre aux enchères.
Ici en NBA, Boston s'effondre à Cleveland.
Les Celtics, meilleure équipe NBA cette saison, ont laissé s'évaporer une avance de 22 points dans le dernier quart-temps face à Cleveland. Ils ont vu s'arrêter leur série de victoires à 11 en s'écoulant face au Cavalier, vainqueur 105 à 104. Le Slovène Luka Doncic a signé un quatrième triple-double consécutif avec plus de 30 points, réalisant 39 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Mais Dallas a perdu un troisième match consécutif, sombrant en défense contre les Indiana Pacers, 137 à 120. De son côté, Kevin Durant a aidé les Phoenix Suns à conquérir un succès de prestige sur le parquet du champion Denver, 117 à 107 après prolongation. Houston a gagné face aux Spurs, 114-101.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Super Tuesday s'est terminé hier dans 15 États américains et un territoire qui ont tenu en même temps des primaires et des caucus pour choisir les candidats démocrates et républicains à l'investiture pour la présidentielle de novembre. Les détails dans ce reportage de Caroline Pressotti, le récit est de Rosine Monizero.
C'est la plus grande soirée de la campagne présidentielle avant les conventions et du côté républicain, l'ancien président Donald Trump est sorti largement vainqueur. Donald Trump, ancien président et candidat républicain.
Nous allons rendre l'Amérique grande à nouveau, plus grande que jamais. Merci beaucoup. Ce fut une grande soirée.
L'ancien président a remporté tous les États, sauf un, et dévance sa rivale Nikki Haley de plusieurs centaines de délégués. L'ancienne représentante américaine aux Nations Unies a remporté le Vermont mardi et Washington DC le week-end dernier. Nikki Haley, candidate républicaine.
La raison pour laquelle je fais ceci, c'est pour vos enfants et mes enfants, et pour vos petits-enfants.
Du côté des démocrates, le président Joe Biden est de loin le grand vainqueur de ce Super Tuesday, à l'exception de sa défaite aux Samoa américaines. Le président a demandé aux Américains, allons-nous continuer à aller de l'avant ou allons-nous permettre à Donald Trump de nous faire reculer? Madame Haley avait espéré que davantage d'électeurs, même démocrates, la choisiraient comme vote anti-Trump. Mais il s'est avéré difficile de convaincre suffisamment d'électeurs des primaires d'adopter cette stratégie. Chai Segal l'a envisagé, mais a voté pour Biden.
Ma principale préoccupation lors de cette élection est la préservation de l'Amérique telle que je la connais, ce qui signifie, vous savez, essentiellement un leadership qui n'est pas Donald Trump. Donc, que ce soit en soutenant le président Joe Biden ou en votant pour un républicain plus modéré, l'un ou l'autre atteint cet objectif.
Reg Mitchell n'est pas d'accord.
Donald Trump, 4 ans de plus, si nous pouvons le faire. Les 4 premières années se sont bien passées en ce qui me concerne.
Les jeunes électeurs sont sceptiques face à l'âge avancé de l'ancien et de l'actuel président. Donna Mendez vote pour la première fois et a choisi la démocrate Marianne Williamson.
J'ai l'impression que Biden est trop vieux pour diriger le pays, encore 4 ans. Ce serait bien d'avoir de la diversité dans le bureau, en particulier la première femme présidente.
Pour Donald Trump, candidat républicain, c'était une grande journée.
Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Super Tuesday. C'était un grand mardi.
Avec toutes ces victoires, l'ancien président Donald Trump pourrait obtenir suffisamment de délégués pour s'assurer l'investiture républicaine dès mardi prochain, avec le vote dans 4 autres États américains.
On s'achemine vers un nouveau duel Biden-Trump pour la présidentielle américaine de novembre. L'actuel président a sans surprise remporté hier les primaires chez les démocrates dans tous les États, sauf dans le territoire de Samoa américaine, alors que côté républicain, l'ancien président a raflé la mise partout, sauf dans le Vermont. Ce petit État frontalier du Canada a été remporté par Nikki Haley, forcé de jeter l'éponge face à Donald Trump. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint ici à Washington, l'analyse politique Calvin Dark.
La leçon pour Biden, c'est qu'il faut mobiliser tous les groupes d'électeurs de 2020 pour gagner. Okay? La peur chez les démocrates, chez Biden, c'est pas que ces électeurs soutiennent Trump. Ça c'est pas leur crainte. Leur crainte, c'est qu'ils vont rester à la maison.
La crainte dans votre sanction.
Oui, ça c'est la crainte. Pour les démocrates. Ou bien il reste à la maison comme sanction. Pour Trump, le défi, la leçon de Super Tuesday pour Trump, c'est qu'il a une base de soutien très, très fort avec les républicains. Mais il y a à peu près 30% des républicains qui ont voté pour Nikki Haley. Trump doit regagner leur soutien.
Justement, j'allais vous demander, Nikki Haley, la challenger de Donald Trump, a décidé finalement de suspendre sa campagne au lendemain de ce raz-de-marée de l'ancien président. Est-ce qu'elle peut, avec ses électeurs, jouer les faiseurs de roi pour cette présidentielle?
Non, je ne crois pas. Je crois que le message de Nikki Haley, c'est pas dirigé vers les électeurs, c'est dirigé vers Trump. Et ce message est, vous avez un problème avec ce groupe des républicains, ce groupe qui m'a soutenu. Et alors, vous devez trouver un moyen de les convaincre que Trump est le candidat et le président qui nous convient. Et ça va être le message de Nikki Haley à Trump. Et moi, je crois que l'objectif de Nikki Haley depuis, la fin de janvier, c'est d'être le « I told you so » candidate. C'est-à-dire, si Trump ne gagne pas, elle va dire, OK, je l'ai dit qu'il ne peut pas gagner l'élection générale.
Cela dit, l'équipe de campagne de Joe Biden a tout de même commencé à, si on peut le dire ainsi, courtiser les partis, les électeurs de Nikki Haley.
Oui, parce qu'il voit une ouverture. Et ça, c'est la différence entre les campagnes de Trump et Biden. Chez Trump, les Never Trumpers, jamais Trump, ça va être presque impossible de changer leur avis. Chez les démocrates, les gens, par exemple, qui ont des problèmes avec Joe Biden, même qui sont démocrates, peut-être quand le choix est entre Donald Trump et Biden, ils vont voter pour Biden, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qu'il fait.
C'était Calvin Dar, cofondateur de RC Communication.
Alexandrine Rolognon avec vous cette semaine dans Washington Forum. Mardi 5 mars, Super Tuesday, date cruciale du calendrier des primaires pour la présidentielle aux États-Unis. Le président démocrate Joe Biden et le candidat républicain Donald Trump pensent déjà au-delà du cap des primaires pour se concentrer sur la revanche attendue de l'élection générale. Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une décision du Colorado déclarant Trump inéligible. Que pensez-vous de ce duel retour opposant Joe Biden à Donald Trump qui s'annonce? Quels sont selon vous les grands sujets qui vont dominer cette campagne présidentielle aux États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Au Nigeria, les autorités fédérales ont renforcé la sécurité dans les magasins d'alimentation publique à travers le pays en pleine crise du coût de la vie. Les attaques contre des entrepôts pour voler des produits alimentaires se sont multipliées. Dimanche, l'Agence nationale de gestion des urgences, NEMA, a déclaré qu'elle renforçait la sécurité pour prévenir toute attaque de ces entrepôts à l'échelle nationale. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Comme les gens ont du mal à se procurer de la nourriture, les attaques contre des entrepôts pour voler des produits alimentaires se sont multipliées ces derniers jours. La capitale fédérale Abuja n'est pas épargnée. Dimanche, certains résidents ont attaqué et pillé des sacs de maïs dans un entrepôt à la périphérie d'Abuja. Réaction de certains Nigériens dans les rues d'Abuja.
Ce qui se passe actuellement échappe à tout contrôle. Cela ne peut être contrôlé que par Dieu Tout-Puissant. Et en plus, je ne conseillerais à personne de piller les biens de quelqu'un à cause de la situation du pays.
Pour être honnête, cette idée n'est pas vraiment juste. Je ne la soutiens pas. Mais à l'inverse, si vous observez de plus près, le coût de la vie dans notre pays est actuellement élevé. Certaines personnes trouvent très difficilement un repas par jour. Et nous, nous demandons le gouvernement de nous aider, mais qui ne fait rien pour nous aider.
Les camions des marchandises sont aussi visés dans certains endroits du pays. Certaines vidéos partagées en ligne montrant les scènes de pillage avec des foules rassemblées autour des magasins où sont entassées les réserves de nourriture pour les périodes de crise et des Nigériens viennent s'en servir. Efi est modéliste à Abuja.
C'est un mauvais message adressé au gouvernement. C'est pour que les Nigérians veulent que le gouvernement fasse quelque chose. Ils doivent travailler dur pour éviter que cela ne se reproduise. Les marchandises des gens ont été pillées et le privé ont perdu leur argent. Et même si vous faites des arrestations pour vol de biens d'autrui, vous n'en trouverez rien contre ceux qui pillent.
Ces incidents se produisent en pleine crise économique dans le pays qui a vu les prix des produits de première nécessité augmenter considérablement sur le marché local avec une inflation atteignant près de 30%. Cynthia est habitante de la capitale fédérale d'Abuja.
It's a very simple message. C'est un message très simple. Réduisez les prix de la nourriture et il n'y aura plus de vols. Faites de votre mieux, mieux pour faire baisser les prix de la nourriture. Assurez-vous que les productions du pays soient vendues moins chères aux populations. Tout ira bien, il n'y aura plus de vols et tout ira bien.
Les Nigériens se plaignent des difficultés et de la flambée des prix des matières premières provoquées par les politiques gouvernementales, en particulier la suppression des subventions carburant et la chute du Naira. Dans certaines villes comme Abuja, de nombreux Nigériens sont descendus dans la rue pour protester contre les difficultés insupportables liées au coût élevé des produits de base, en particulier les produits alimentaires. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En RDC, depuis l'avancée des rebelles du M23, près de la ville de Sake, les habitants de Goma, la capitale provinciale, ont des difficultés à accéder aux denrées alimentaires. La seule voie d'approvisionnement restant, le lac Kivu, les prix des denrées ont fortement augmenté et la société civile locale appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Davantage avec Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région.
Au port de Kituku, des pirogues généralement à provenance de la province du Sud-Kivu, transportant des produits vivriers, accostent sous l'œil attentif des commerçants qui utilisent désormais la voie lacustre pour acheminer leurs marchandises jusqu'à Goma. Francine, une commerçante, révèle que le transport de ses marchandises est devenu un casse-tête depuis que la route Goma-Minova a été coupée en raison des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23.
Nous traversons plusieurs difficultés. Depuis ma naissance, je n'avais jamais voyagé par les lacs. Mais à cause de la guerre, nous sommes obligés d'aller par les lacs. Le transport en pirogue est très cher et ici au port, nous sommes soumis à des taxes.
La difficulté d'acheminer les produits alimentaires vers Goma s'est fait déjà sentir dans plusieurs marchés de la ville. Au marché Maman Olive Lembe, les prix de plusieurs produits agricoles ont doublé, voire triplé à la grande surprise des habitants.
Les prix des produits nous rendent tristes. Le prix des denrées alimentaires a fortement augmenté à cause de l'inaccessibilité de route. Un kilo de pommes de terre coûtait 1500 francs. Aujourd'hui, c'est 2000 francs. La marante coûtait 500 francs la petite quantité. Aujourd'hui, c'est 1000 francs. Les prix ont galopé.
Cette situation ne peut être résolue que par les autorités congolaises, selon la société civile, qui estime que la ville risque de devenir invivable.
La vie est devenue difficile. Alors, en tout cas, c'est ici une occasion pour nous de lancer un message pathétique d'ici et de là, du côté de nos autorités, pour qu'ils puissent revenir à la raison, que l'autorité puisse revenir à la raison, que l'autorité soit sérieuse afin que la ville puisse retrouver la paix.
Malgré des cas de noyades et des naufrages de pirogues, les habitants n'ont d'autre choix que d'emprunter les eaux du lac Kivu pour leur survie. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïmard. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur